France Culture.
Les nuits de France Culture.
Si le Théâtre national de Strasbourg est le seul des théâtres nationaux installés en région, il est aussi le seul d'entre eux qui abrite l'une des deux écoles nationales supérieures de formation à l'art dramatique, l'autre étant bien entendu le Conservatoire national de Paris. Par cette école pluridisciplinaire du TNS, dont la réputation d'excellence partout dans le monde n'est plus à faire, sont passés bon nombre de ceux qui ont compté dans la vie du théâtre depuis les années 50, comme le rappelait Jean-Marie Villégier dans l'émission que nous allons entendre, le troisième volet d'une série du Pays d'ici consacrée au TNS en 1991, alors que le metteur en scène venait d'en prendre la direction. Une émission dans laquelle Jean Dève rencontrait élèves et enseignants et interrogeait Jean-Marie Villégier sur la manière dont il entendait orienter l'enseignement qu'on y dispensait. Parallèlement, Jean-Pierre Vincent et Jacques Lassalle, ses prédécesseurs à la tête du TNS, disaient comment eux-mêmes avaient vécu cette expérience périlleuse de formateur au métier du théâtre et tout particulièrement à celui de comédien. Avec également les témoignages du philosophe Philippe Lacoulabarthe, du metteur en scène Daniel Girard et de Laurent Spielmann, alors directeur de l'Opéra du Rhin. Le Pays d'ici, théâtre à Strasbourg, troisième des quatre émissions, l'enseignement, diffusé le 30 mai 1991 sur France Culture.
Vous enseignez la philosophie. Est-ce que vous pensez un enseignement possible du théâtre? Vous qui, justement, avez travaillé énormément pour le théâtre.
Enseigner le théâtre, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je crois, comme ça, avec la petite expérience que j'ai, que un enseignement dramaturgique est possible, au sens... que ce mot avait chez les Brechtiens.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça, la dramaturgie?
La dramaturgie, ça veut dire la... En gros, ça veut dire l'explication des textes que l'on est... que l'on va monter, que l'on... sur lesquels on travaille, théâtralement. Donc c'est un enseignement théorique, philosophique, historique, littéraire, etc., sur un matériel donné qui sont... les pièces de théâtre. Ça, je crois que c'est possible. En gros, c'est ce que j'ai fait.
Vous savez que ça n'existe pas au TNS. Hein, ça n'existe que sous la forme de metteurs en scène invités.
Voilà.
C'est-à-dire au coup par coup.
Ben oui, parce que ce que j'allais dire aussi, ça ne s'enseigne pas, le théâtre. Hein, ça se fait.
Ça se prépare, quand même.
Sans doute. C'est vrai.
Bleu. Oh, ouais.
Pourquoi un tel cours ici à l'école du TNS, cours de chant?
Ça fait partie d'un programme général comme le travail corporel, le travail vocal, le travail d'improvisation, les arts martiaux, le tir à l'arc, le tai chi, en disant corporel, vocal. C'est bien l'homme a un corps et ce corps supporte une voix, donc.
Alors, vous pourriez peut-être prendre des exemples de travail de la voix.
Oui, on peut prendre des exercices.
Un petit quelque chose. Hein. Tu restes concentré, tu ne penses pas à moi, et c'est tout de suite, dès que tu quittes, tu me quittes. C'est-à-dire, dès que tu touches le sol avec ton pied, tu prends conscience pour te protéger. Donc, te protéger, c'est mettre tout vers le vent. Tout. Hein. Et assez dynamique, avec même un souffle. Hein, pour toi. Prêt. T'as tout relâché, là. Encore.
Alfred Simon, vous enseignez les arts martiaux. C'est-à-dire que dans une tragédie de Sophocle, par exemple, lorsque le père tue sa fille, la comédienne doit apprendre comment tomber, comment chuter.
Exactement. Alors, le comédien, bien sûr, il doit maîtriser son corps. Déjà pour sa sécurité, pour ne pas se blesser. Donc, j'enseigne ici en dojo, c'est-à-dire sur un tapis. Sur un tapis, j'enseigne les chutes, comment se recevoir, mais pas seulement sur un tapis, aussi sur un sol dur.
Ok, maintenant Tsuki, tu veux essayer la chute?
Ouais.
Au revoir.
Alors vous apprenez, non pas en fonction des pièces ou des tragédies, mais en fonction des coups, des gestes, des mouvements?
C'est un enseignement au début, général, et puis si bien sûr pour des pièces il y a un travail spécifique pour un combat, bien sûr, là on travaille alors les mouvements séparés. Mais il y a un enseignement général d'abord, maîtrise du corps.
Et le mouvement doit être un peu lourd, hein, c'est vraiment quelque chose. Ah, je sens, oui, avec une armure. Ah, et sort. Et le souffle sort.
Mais ce que j'essaie, moi, c'est de remplir le geste. Et remplir le geste, on passe par les arts martiaux, parce que les arts martiaux, l'efficacité, c'est justement dans le geste, le remplir, c'est-à-dire donner de l'énergie. Et cette énergie doit partir de son sang. Et il faut réveiller ce sang. Et à mon avis, si ce sang n'est pas réveillé, il n'y a pas de résultat possible.
Doucement, hein, c'est pas encore la vitesse.
En direct de la salle de musique de l'école du TNS, avec vous, entre autres, Jean-Marie Villigier, pour aborder l'enseignement théâtral. Alors, comment se préparer au théâtre ici même?
En entrant à l'école, en y passant 3 ans, en travaillant en contiguïté et en étroite symbiose avec les sections de décoration et de régie, et en autant que possible profitant du voisinage du théâtre où se créent et où s'accueillent des spectacles. Comment fonctionnait l'école? Comment fonctionne aujourd'hui l'école? Comment elle a fonctionné autrefois? C'est ce dont il faudrait parler maintenant. Mais je crois que Catherine Delattre, qui est avec nous et qui est directrice des études, est mieux placée que moi pour le faire.
Catherine.
Comment fonctionnait l'école? Bien,
du temps, par exemple, de Jacques Lassalle.
Du temps de Jacques Lassalle, parce que je suis arrivée, moi, avec Jacques Lassalle. Bon, c'était une école... c'est une école, quand même, il y a quand même une constante. Cette école a une histoire, cette école a une trajectoire. Et quelles que soient les personnalités artistiques qui la marquent, qui l'impriment, je pense qu'il y a une exigence fondamentale qui est liée à... qui est liée au mur, qui est liée à la situation, à la décentralisation dont nous sommes tous héritiers. Et cette exigence est un petit peu, jalonne un peu le parcours de tous les metteurs en scène et de tous les directeurs des études dont je suis l'héritière. Bien, l'école fonctionnait beaucoup sur l'ouverture, l'éclectisme, la rencontre avec un répertoire très très ouvert et sur l'invitation de personnalités qui représentaient l'ensemble du monde théâtral contemporain.
Alors vous êtes venu avec deux élèves.
Oui.
Et vous pourriez peut-être leur poser une question. Pourquoi sont-ils ici, par exemple, dans cette école?
Oui, c'est une question que je leur ai déjà posée, mais je veux bien la leur reposer. Et puis, c'est des questions que je leur pose avec régularité. Comment eux, qui avaient entendu parler de l'école, comment la vivent-ils aujourd'hui après 7 à 8 mois d'existence parmi
Stéphane
nous?
Eh bien, l'école, on la vit très bien. Je crois que c'est... C'est le plus important parce que, enfin, école, je crois que le terme est impropre. Quand on parle d'école, on a une idée d'enseignement, d'apprentissage, plus que d'un apprentissage en ce qui concerne le théâtre, le jeu. Je crois qu'il faut parler de découverte de soi, de découverte des autres et surtout des rencontres avec nos professeurs permanents, professeurs de technique, rencontres aussi avec les metteurs en scène invités.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de temps d'attente. Je vous regarde par exemple aller et venir. Il y a beaucoup de temps mort, enfin apparemment mort.
Ah, apparemment. Non, pas du tout.
Vous êtes souvent dans les couloirs, dans la cour, dans la rue et... Je vous en prie, Catherine.
Oui, non, je pense qu'en effet...
C'est une forme peut-être d'exercice.
C'est pas une forme d'exercice, ils ne travaillent pas sur l'attente, mais je pense qu'on peut dire qu'ils sont très souvent dans les murs parce que c'est quand même le lieu principal de leur existence ici. Ce sont des gens qui ne sont pas de Strasbourg, et c'est vrai qu'ils reçoivent un enseignement de 9h du matin à 18h, normalement. Bon, cet enseignement se dépasse, bien sûr, les 18h, mais je pense que c'est le lieu où ils prennent le café, le lieu où ils bavardent, où ils rencontrent les spectacles du soir. C'est pour ça qu'il y a une espèce de permanence et que je ne pense pas du tout que ce soit du vide intérieur.
Monsieur Villégier.
Oui, alors, votre question m'étonne énormément.
Ce n'est pas une question, c'est une observation.
Votre observation m'étonne énormément.
Vous savez que je suis très présent chez vous.
Je sais que... Oui, moi aussi. Je connais les horaires de l'école. Je sais que les matins, ils sont consacrés à des cours techniques, que l'après-midi et souvent le soir... y est consacré à des répétitions. Et moi, et je vois bien que qu'on appelle les élèves de l'école et que j'aimerais mieux appeler les jeunes comédiens de ce théâtre sont, en effet, très souvent aux abords pour les raisons que Catherine Delattre vient de dire. Et moi, mon inquiétude serait inverse. Je me dirais, mais quand est-ce qu'ils ne font rien ? Quand est-ce qu'ils trouvent le temps de stagner, de lire, de laisser les choses mûrir en eux, de rêver, ça me ferait plus peur. Je sais tellement que tout ce que j'ai pu faire de bien, je l'ai rêvé dans ma baignoire, que je me dis, ben, il faut peut-être réformer l'école pour qu'ils aient des temps de baignoire.
Jean-Pierre Vincent. Vincent, vous avez dirigé le TNS et l'école du TNS de 74 à 83. On aura compris qu'il y a dans votre travail beaucoup de violence, une grande justesse. Comment cette violence, vous l'avez déplacée du côté de l'école ?
On l'a déplacée de façon quand même homéopathique à l'école. Les les sensibilités des gens de 20 ans sont à la fois extrêmement aiguës, et dans les années 70 d'ailleurs, elles étaient très chavirées, enfin, par le post-68. Mais il fallait faire attention. Enfin, nous étions responsables quand même de l'avenir d'un certain nombre de gens. Donc il fallait à la fois transmettre des choses qui existaient, qui nous semblaient absolument nécessaires. Et là, Claude Petitpierre, qui dirigeait l'école à ce moment-là, on était à la fois conscient et capable. Et puis, nous insufflions de façon modérée nos expériences dans l'école. Et ça a fait d'ailleurs qu'un certain nombre de comédiens qui sont passés dans cette école dans les années 70 ont continué à leur manière ce travail, soit comme acteur, soit comme regroupement d'acteurs, soit comme metteur en scène.
Enfin, je connais un certain nombre de comédiens qui ont encore en mémoire votre passage à Strasbourg, à l'école. Vous pensez que votre présence est due à quoi? Enfin, cette force-là. Est-ce que vous pourriez l'analyser pour nous?
Si, il m'est arrivé il y a deux mois de relire un peu les notes que je prenais à l'époque. C'est-à-dire que, grosso modo, je tenais un journal pendant le TNS. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que ce journal était très dur. Que la vie au TNS était très dure, alors qu'aujourd'hui, autant moi que d'autres, on en a plutôt un souvenir idyllique. C'est une grande période. C'était une grande période, je crois, pour ce théâtre, une grande période pour chacun d'entre nous, mais c'était dur. Et je crois que j'ai fait preuve pendant 9 ans, à la fois de beaucoup de patience avec tous les êtres excessifs qui étaient là, que j'ai fait un travail continuel de rassemblement sans gommer les divisions, sans gommer les différences, que c'était une chose parfois très éprouvante. Alors comme j'avais surmonté cette chose-là, on a jugé que je pouvais aussi surmonter les problèmes de la comédie française. Je les ai surmontés pas 9 ans. Au bout de 3 ans, j'ai préféré ma santé.
Qu'est-ce que vous voulez transmettre à l'école, plus qu'au théâtre ?
Sur cette matière, la réponse est très différente selon qu'il s'agisse de ces années 70 à Strasbourg ou de ce que je peux ressentir maintenant comme prof au conservatoire au début des années 90. À franchement parler, à cette époque, moi j'avais 30-35 ans, je me sentais dans une position quand même un peu délicate pour ce qui concerne transmettre. Je pensais que je pouvais avoir des choses à transmettre, mais je gardais quand même une réelle modestie. En fait, tout ce que je pouvais transmettre, c'était mon désir d'expérience. Alors qu'aujourd'hui, quand je suis prof, je sais ce que je peux transmettre. Je sais ce qui est nécessaire à un jeune acteur français pour progresser. J'essayais de créer les conditions à cette époque-là pour le savoir. Et en fait, le plus important pour un enseignant, au théâtre en particulier, sans doute dans toutes les matières, c'est qu'il soit décidé lui-même à apprendre. Si un enseignant n'est pas décidé à continuer à apprendre dans le processus de son enseignement, c'est un mauvais enseignant.
Vous vouliez, au fond, mettre l'accent sur quoi dans les années 70 ? Sur la voix, sur la gestualité, sur le mouvement, sur...
Non, plutôt sur la dramaturgie, plutôt sur les idées du théâtre. Il y avait... comme toujours, dans une école, des cours de base. Bon, mais ces cours de base, nous les jugions relativement indépendants, nécessaires à toute personne voulant faire du théâtre pour fortifier son instrument, mais relativement indépendants de ce que nous voulions faire. Au fond, on ne demandait pas une technicité bigarrée. Nos spectacles ne demandaient pas de savoir faire de l'escrime ou même de chanter. Mais chanter fortifie la voix. Et pouvoir parler fort permettait ce que nous désirions à ce moment-là, c'était parler pas fort. Donc en fait, c'est beaucoup plus sur les idées, sur l'invention de spectacles que nous avons, je crois, dynamisé les élèves.
À la race, ils osaient lui dans la race, il les ramène.
Bien. Alors, attention, votre attaque n'est pas musclée, c'est voici. On sent la prudence du voici, de peur qu'on se soit trompé. Dominique, tu entends ce que je dis? Le voici n'est pas assez tenu. On fait technique, voici, après on vous fait tout.
On les fait tous?
Oui, tous les sons. Tu sais ce que je voulais dire également, Dominique et Bruno, excusez-moi, une dernière remarque sur le jeu. Vous êtes un peu zombies tous les deux. Regard fixe dans le lointain. Dominique,
tu veux qu'on soit plus...
Même si vous ne voulez pas bouger, regardez-nous quand même, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes un peu zombie. Non, pas trop absent quand même. N'oubliez pas qu'il y a un public qui est là, que... Voici, venez, la boucle.
Je peux faire un peu ça les deux chaînes.
Avec quelle motivation? Refaites-le-moi.
Nous écoutons l'exercice du groupe 26 sous votre direction, Catherine Delattre, et j'aimerais que vous commentiez en direct ce que nous entendons. Alors, comment faites-vous pour travailler avec ces comédiens et ce texte de Brecht?
C'est une expérience un peu particulière. Bon, je vais passer un peu vite sur les circonstances qui m'ont amené à travailler sur ce texte, puisque je reprends un projet que je ne devais pas assumer normalement. Mais c'est avec plaisir que je me suis immergée dans Brecht, que je n'avais pas rencontré depuis bien des années. Là, ce que nous étions en train d'entendre, c'était une répétition où les comédiens abordaient le song, puisque je les ai laissés complètement construire leur partition chantée avec l'aide d'un de leurs camarades qui est musicien, qui leur a donc proposé des musiques et les a fait travailler. Et là, nous étions à quelques jours de la première et j'étais en train de mettre dans l'espace et de replacer dans le contexte théâtral ces partitions.
Alors, une autre observation, est-ce qu'il est facile au fond d'affronter le travail du comédien? Je trouve qu'il y a déjà chez eux beaucoup de maturité. Ils font déjà face, si vous voulez, au professeur. Par exemple, j'ai vu pas des échecs, mais le texte disparaissait. Et avec beaucoup de naturel, il faisait face au trac, par exemple.
La répétition que vous avez vue?
Oui.
Vous voulez dire qu'ils tiennent le coup? Bien sûr qu'ils tiennent le coup. D'abord, ce sont des gens qui ont été quand même choisis, qui ont une certaine maturité et... dans lesquels nous voyons de futurs professionnels. Donc l'exigence à chaque fois qu'ils ont à aborder un travail théâtral est telle qu'il n'y a aucune raison qu'ils baissent les bras ni devant la difficulté du texte, ni devant la difficulté de l'enjeu de la scène. Donc c'est normal qu'ils vous donnent cette apparence de sûreté, heureusement. Heureusement. Sûreté, mais en même temps vulnérabilité, parce que ce sont des gens d'une très grande fragilité que le moindre regard met en péril, bien sûr.
Alors, je sais, Jean-Marie Véléger, que parmi vos projets, vous souhaitez aborder la dramaturgie, par exemple, vous-même, en personne.
Tout dépend ce qu'on entend par dramaturgie. Non, ce que je souhaite aborder, c'est l'école. Parce que j'y suis très attaché, puisque, comme je vous le disais l'autre jour, j'ai commencé à y travailler aux alentours de 79. Et que c'est à l'école que je dois d'avoir pu commencer un travail véritable de metteur en scène. Mais je voudrais remonter un petit peu plus haut. Je voudrais dire ce qu'est, à mes yeux, la spécificité de cette école. Car enfin, il y a une chose qui doit être dite, je crois, à cette antenne, que tout le monde ne sait pas forcément, c'est que l'école du TNS occupe, dans le panorama théâtral français, une place... singulière et importante. Il est nécessaire de savoir que nous sommes la seule école qui, avec le Conservatoire National d'Art Dramatique, bénéficie du soutien et de la reconnaissance du JTN. C'est dire que nous sommes un pôle de la formation du comédien français dont la responsabilité est très lourde, et aussi, dont je dois dire, je le dis d'autant plus volontiers que je n'y suis pour rien, dont le prestige est très grand, et très grand jusqu'à l'étranger. Quand je suis allé travailler au Portugal, quand j'ai travaillé aux États-Unis, on m'a parlé de l'école du TNS. C'est une école extrêmement connue. Cette école a eu, et a encore, je crois, malgré quelques difficultés, une identité très forte. Lorsque Michel Saint-Denis l'a fondée, et lorsqu'Hubert Gignoux l'a fait vivre, c'est-à-dire pendant toute la longue première période de la vie du TNS, sa fonction était absolument claire. C'était l'école de la décentralisation. En tant qu'école de la décentralisation, elle s'opposait à tout ce qu'il pouvait y avoir d'extrêmement académique, de réactionnaire, d'individualistes au conservatoire. Les méthodes qui, dès cette époque, étaient celles de l'école du TNS, la singularisaient, en faisaient un pôle d'attraction. Ces méthodes, on peut les résumer d'un mot, formation sur le tas. Formation dans la pratique concrète du théâtre, puisque, et c'est ainsi que j'ai connu l'école quand j'y suis venu la première fois, les études développées sur 3 ans menaient les élèves comédiens de spectacle en spectacle, réalisés avec le concours des élèves décorateurs et des élèves régisseurs. En gros, on peut dire que le principe de départ, c'était un spectacle par trimestre égal 9 spectacles, de plus en plus aboutis, de plus en plus élaborés au fil de la scolarité. Ce principe a connu ensuite quelques altérations. Le rythme de travail à l'école s'est accéléré, les exercices sont devenus plus brefs. Et aussi, il faut bien dire que ce débouché naturel, mais ce n'est pas seulement un débouché, c'est une idéologie, c'est une pensée du théâtre, qu'était la décentralisation, a perdu de sa force, s'est divisé en tendances diverses, bref, qu'il n'a plus été aussi clair que le directeur du TNS puisse, comme le faisait Hubert Gignoux, réunir d'un claquement de doigts, au moment de ce qu'on appelle l'exercice de sortie, tous les directeurs de la décentralisation pour venir voir leur futur comédien au TNS.
Je vous propose d'écouter Jacques Lassalle. Jacques Lassalle, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous apportez au TNS lorsque vous arrivez en 83. Par exemple, quelles sont vos nouvelles méthodes de travail ? Par exemple, je sais que vous faisiez des séances de travail avec des analystes, paraît-il. Vous qui aimez tellement le monde onirique, le monde du rêve, le monde de l'enfance. Mmh. Vous souriez ?
Je souris parce que le moment analytique, enfin la...
C'est à propos de quelle pièce ?
La jonction avec les analystes. Strasbourg est une ville, dit-on, d'avocats et de psychanalystes. Et c'est vrai que j'ai rencontré, mais très tard, alors j'étais là depuis déjà 6 ans. Et c'est moins... je suis moins directement concerné que peut-être...
Mais qu'est-ce que vous cherchiez là ?
Moi, rien. Non, c'est amusant. Si vous... Je n'ai jamais fréquenté ni de près ni de loin la psychanalyse,
le divan.
Peut-être par panique.
Par pudeur. Par
absence, je crois, quand même, de nécessité. Simplement, il est probable que ce qui m'intéresse dans toute aventure de travail théâtral, c'est l'énigme du texte et c'est l'énigme de ceux qui ont à l'incarner. Voilà. Ce que je mets en scène, c'est le tressage de ces deux énigmes et de ce double désir d'exploration du caché, de l'interdit, de ce qui est consciemment ou non interdit à la présentation. Enfin, voilà. Alors,
j'aimerais quand même souligner quelque chose.
Oui.
Jean-Pierre Vincent dit « J'ai monté Germinal, mais il ne restait rien du texte. » Il y avait une absence de texte de Zola. Et vous, j'ai l'impression que vous cherchiez à entendre le texte de X par le relais d'un certain nombre de psychanalystes dont vous étiez au fond le témoin, dont vous étiez l'écoute.
C'est curieux ce que vous me dites là. J'ai pas du tout ce sens. Non, historiquement, objectivement, le dialogue avec quelques psychanalystes a commencé, je crois, parce qu'ils ont découvert ce qui était bien connu, enfin, que Rosmer Scholm, la pièce d'Ibsen que j'ai dû monter en 87, était un prodigieux matériau que d'ailleurs Freud et Grodeck avaient longuement questionné. Alors à ce moment-là, tout naturellement, ils sont venus assez nombreux, me semble-t-il. Vous en savez des choses sur, sur mes psychanalystes.
Ça, c'est une, plaisamment. C'est une méthode de travail intéressante. Enfin, c'est pas la seule quand même. Il y en a d'autres.
Mais elle est très peu, très sérieusement, elle est très tardive et elle est très très peu significative de la de l'ordinaire. Vraiment.
Mais tu vois, je crois pas que ce soit intéressant que tu me cherches dans une espèce de dépression. Hein? D'ailleurs, plus de rage là-dedans. Plus d'impuissance. Une impuissance généreuse, je veux dire, qui se dit comme vraiment comme une impuissance, et pas une dépression. Hein? Il est loin de faire une dépression, Casimir. C'est intolérable, mais pour ça, ça va pas assez loin. Ça doit être intolérable. Ta copine, là, tout d'un coup, qui rayonne, qui s'amuse, qui s'occupe du Zeppelin. Et c'est vrai que c'est beau, le Zeppelin. Pourquoi ça serait pas beau, le Zeppelin? C'est génial. Hein? Imagine, t'es en train de regarder le feu d'artifice à la tour Eiffel. Toi, tu viens de te faire jeter. Et pourquoi elle aurait pas le droit de prendre... Elle prend un plaisir énorme à regarder ça. C'est beau, c'est chouette. Tu supportes pas cette présence-là. Tu la supportes pas parce que toi, tu n'es plus rien. Toi. Et qu'effectivement, tout ça, c'est du vent. C'est des mirages. Des mirages, qu'est-ce qu'on t'a foutu à la porte? Ouais?
Vous riez, Daniel Girard.
Oui, alors, je ris, oui.
Et quelle est votre méthode de travail? En dehors de faire gonfler... de manière obsessionnelle, le ballon.
Je n'ai aucune méthode de travail. Je n'y crois pas. J'essaie d'écouter les êtres qui sont en face de moi, de les rencontrer, de faire en sorte qu'ils se découvrent eux-mêmes. Et peut-être avec d'essayer de les accoucher à eux-mêmes, si j'y arrive. Mais je n'ai aucune méthode de travail. Je n'y crois pas aux méthodes de travail. En ce qui concerne l'école.
Mais en ce qui concerne le comédien ou le texte?
Tout dépend du texte et tout dépend de l'acteur que j'ai en face de moi.
Alors pour ce texte-ci, par exemple, comment avancez-vous?
Ce texte-ci, je l'ai choisi parce qu'il me permettait de travailler avec un groupe de jeunes acteurs sur des situations qui, dans un premier temps, pouvaient leur être familières, c'est-à-dire des situations de rencontre, de rupture entre jeunes gens et jeunes filles. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte-là. Ensuite, parce que c'est un texte qui apparemment... est banal, parle comme on pourrait parler, tous les jours dans la rue, dans la vie, et qui me paraît intéressant de découvrir ce qu'il y a dessous, derrière, et surtout de voir comment l'art de l'acteur passe aussi, pour porter le texte, par l'expression du corps, par l'expression du non-dit. Bon, mais ça, c'est une de mes obsessions. Voilà. Mais c'est un... Pour moi, il n'y a pas de méthode, c'est un problème de rencontre. Je rencontre, ou je ne rencontre pas, on me rencontre, ou ne me rencontre pas. Je ne crois qu'à ça, dans l'art du théâtre.
J'ai demandé à Lucille comment elle vit ce texte, quand même un peu dur.
Très dur, oui, Horvath. C'est quelque chose d'assez pesant, quand même.
Mais justement, avec justement cette méthode de Daniel Girard, c'est vrai qu'on travaille avec notre instrument avant tout. J'entends par instrument notre corps, notre voix, toute notre mémoire affective. Et ça, c'est quelque chose de très surprenant parce qu'on arrive à se découvrir. Ça fait quand même presque 7 mois qu'on vit ensemble dans le groupe. Et on arrive encore à découvrir et toujours des choses comme ça à travers ces rencontres de couple. Et ça... Enfin, ça porte, c'est... Horvath disait, avait dit en 32 dans un interview, « Connais-toi toi-même ». Et je trouve que c'est tout à fait là, en ce moment, ce qui se passe avec, justement, ce travail.
Et vous, Stéphane ?
Moi, ce à quoi je suis le plus particulièrement sensible sur ce travail, c'est qu'on touche à ce qui, à mon sens, fait le fondement même d'un acteur, c'est-à-dire l'humanité, la simplicité, l'authenticité.
Alors, Laurent Spielmann est avec nous, très, très jeune directeur de l'Opéra du Rhin. Comment est-ce que vous avez une pratique de la pratique ?
Eh bien, à l'Opéra du Rhin, nous n'avons pas d'élèves chanteurs. Nous avons un atelier lyrique qui est à Colmar, qui est dirigé par Pierre Barra, qui travaille avec des jeunes chanteurs. Au contraire, je dirais de l'atelier lyrique de Lyon, qui fait un travail... à la saison, avec des futurs chanteurs, ou déjà des jeunes chanteurs, sur plusieurs spectacles, qui rentrent tout doucement dans le métier de chanteur d'opéra. Ceci dit, nous avons évidemment, à l'intérieur de la structure, en dehors du travail spécifique de l'atelier lyrique de Colmar, d'engager des jeunes chanteurs, au moins pour une production par an. Essayer de casser cette idée qui ferait que en dehors des chanteurs confirmés, des divas qu'on ne voit que très rarement et plutôt nulle part, une profession là existe et qu'il y a tout un travail à faire avec des chanteurs qui évoluent tout doucement. Le chant met longtemps à se développer et dans les choix des rôles, à travers notre travail, nos engagements vis-à-vis des jeunes chanteurs, nous essayons d'apporter un plus à leur formation, tout simplement.
Une remarque, Jean-Marie Villégier.
Une remarque qui est que c'est très curieux, les émissions de radio. Parce qu'on est là autour d'une table, il y a Laurent Spielmann, il y a Catherine Delatte, il y a Daniel Girard, il y a des élèves de l'école, et il y a Antoine Girard, et voilà. Et alors, c'est assez cauchemardesque, parce que on se dit on pourrait parler ensemble et puis on parle pas ensemble. C'est un cauchemar, quoi. C'est beau comme un cauchemar. C'est beau comme une fenêtre qu'on n'arrive pas à ouvrir dans un cauchemar, comme des sables mouvants dont on n'arrive pas à se tirer dans un cauchemar. C'est un peu comme ça. Alors, pour continuer le cauchemar, je dirais que j'avais commencé tout à l'heure une évocation de l'histoire de l'école. Et je dirais que dans une... seconde période, l'école, qui est un peu la période de Jean-Pierre Vincent, mais ça tourne tout ça autour de 68, l'école a rêvé très fort d'un rêve qui d'ailleurs était le sien dès la fondation et qui était que chaque groupe d'élèves, puisque nous fonctionnons par groupe, était appelé en quelque sorte à se constituer en troupe et à demeurer ensemble une fois le groupe sorti. Ça, c'est une autre époque. Et puis, il y a eu ensuite encore des développements et je pense que maintenant nous en sommes au moment où il s'agit de peut-être regarder de l'autre côté ce qui se passe. L'autre côté, c'est le conservatoire. Et de se dire que peut-être aujourd'hui, nous en sommes venus à un point où le conservatoire n'incarne plus réellement une tradition. Le conservatoire, j'ose le dire, puisque ce n'est pas moi qui me trouvais à la direction de ce théâtre auparavant, ni à la direction de cette école. Le conservatoire a énormément appris de l'école du TNS. Et en même temps qu'il rompait le lien historique qui l'unissait à la Comédie française. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que l'école du TNS peut tout en conservant ses qualités spécifiques. Et elles sont très importantes, ces qualités spécifiques. Ces qualités spécifiques, c'est que les gens qui viennent ici ne viennent pas pour faire une carrière individuelle et viennent avant tout par amour du travail théâtral qui est un travail collectif. Les gens qui viennent ici viennent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver une pratique vivante liée à une scène de théâtre vivante. Mais il me semble aussi que l'heure peut être à concevoir ici que tradition n'est pas conservatisme, et le lieu même du TNS est là pour nous aider à le concevoir, c'est-à-dire à faire ce que le conservatoire n'a pas pu faire lorsqu'il s'est réformé. C'était impossible, et je ne le lui reproche pas. Le conservatoire ne pouvait passer que d'un extrême à autre chose, qu'il lave de ses anciens vernis. Mais nous n'avons pas ce passé-là, et je crois que le moment est venu où nous pouvons penser en termes d'histoire des théâtres, car le théâtre est pluriel, et creuser aussi longuement que possible, en renonçant peut-être à des exercices trop sporadiques, chacune des grandes images qui font la tradition théâtrale.
Comment ça s'apprend, une porte qui grince, par exemple? C'est Xavier, vous?
Au départ, c'était la curiosité, en fait, si vous voulez. C'est, j'ai assisté à un spectacle qui s'appelait Les Molières, de Sganarelle, monté par Jacques Lassalle en bas sur le plateau, et j'avais vu des techniciens qui construisaient des portes qui grinçaient. Il fallait des portes qui grinçaient sur un spectacle, donc ils ont trouvé un moyen technique pour pouvoir le trouver, donc j'ai repiqué leur manière de faire, et puis je l'ai construit pour pouvoir...
Expliquez-nous comment vous faites, vous.
Alors, il faut un tourillon de différentes grosseurs, de différentes longueurs, ça, et une espèce... une planche de bois trouée, au diamètre supérieur de ce tourillon, qu'on passe à l'intérieur de ce tourillon, on comprend. Et...
C'est un bout de bois, quoi.
En c'est fait, un bout de bois, oui.
Vous allez faire tourner.
Que je vais faire tourner à l'intérieur.
Du trou.
Du trou. Et donc, il faut humidifier.
Avec de la salive?
Non, avec de l'eau, que je n'ai pas là pour l'instant.
Ouais, ce serait mieux d'en avoir.
Oui. Et...
Allons chercher de l'eau.
Allons chercher de l'eau. Vous me prenez de court.
En avez-vous?
J'en ai.
Il y a de l'eau.
Attendez, je prépare la chose.
Vous aimez Molière, vous?
Oui, j'aime Molière. Vous me posez des questions, quand même, c'est...
Non, mais tout ça pour Molière, c'est quand même beaucoup. Hein.
Non, mais... attendez. Molière et bien d'autres.
Il y a toujours une porte qui grince.
Non, si vous voulez, l'histoire de la porte qui grince, je l'ai fait puisque je réalise, en fait, un mémoire, là, de fin d'études.
Une tasse avec de l'eau. Merci, Michel.
Qui est de réaliser un disque compact de bruitage. Donc je cherche des moyens, soit c'est des bruitages qu'on enregistre en direct, que ce soit une gare de triage ou une locomotive à vapeur, ou alors des bruitages qu'on réalise nous-mêmes en studio, bruités, c'est-à-dire on ne prend pas forcément une porte pour l'enregistrer en direct, mais on simule le son. Donc,
avant de commencer, vous êtes ici à l'école.
Oui.
Depuis combien de temps?
Ça va faire 2 ans. J'ai passé le concours en 89.
Facilement? Brillamment?
Bah, brillamment, je sais pas, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai été pris, mais je suis très content d'y être. C'est ce que je voulais faire, être régisseur, enfin technicien du spectacle. Et puis je crois que j'ai pas chômé pendant 2 ans.
Pourquoi est-ce qu'on parle autant de l'école du TNS? Qu'est-ce qui est là comme aura?
Comme aura? La particularité de cette école, c'est qu'elle a 3 sections. Une section jeu, une section régie et une section scénographie. Ce qui nous permet en fait de simuler des réelles conditions de spectacle, comme chez des professionnels. C'est-à-dire que tout... nous avons dans chaque section des cours bien particuliers, propres à notre section. Et on se réunit Enfin, entre ces cours, nous nous réunissons pour, avec un metteur en scène et nous faisons des exercices, c'est-à-dire on présente des spectacles avec lumière, son, jeu de comédien, décor. Voilà.
Donc et vous travaillez aussi avec des comédiennes, entre autres.
Avec des comédiennes, oui. Oui.
D'où la porte qui va grincer.
Non, la porte qui grince, en fait, c'est pour moi, c'est personnel. Ça, si vous voulez, en fait, on apprend à faire des bruitages, c'est par rapport...
C'est applicable à aucune comédienne, finalement.
Pardon ? À aucune comédienne ? Bah, pour l'instant, non. Mais c'est toujours sympathique d'en avoir un, on peut toujours... Le jour où on me demandera un, j'en aurai peut-être un. Ou je saurai comment le faire. Je vous en ferai un, je vais essayer. Alors, il y a toute une méthode. En fait, c'est tout un métier. Ça s'apprend pas en 2 ans.
Il y a des bruiteurs pour
ça. Et ça va jusqu'où, ça, cette porte qui grince?
Ça va jusqu'où?
De Molière à Shakespeare, en passant
par Molière, c'était une drôle d'histoire, en fait. C'est que Jacques Lassalle avait demandé les portes qui grinçaient. C'était un décor tout en bois, cubique. Et des portes qui s'ouvraient, des petites fenêtres, et les comédiens apparaissaient. Et le principe, c'est que ces portes devaient grincer dès que les comédiens rentraient. Alors, le régisseur son s'était posé beaucoup de questions pour pouvoir simuler ce son-là. C'est-à-dire être raccord entre le mouvement de la porte et l'apparition du comédien, et en plus le grincement de porte. Et ils n'ont pas réussi à le simuler sur bande magnétique, en diffusion. Donc ils ont trouvé ce principe-là.
Bon, bah, évidemment, la porte grinçait chez Lassalle, mais elle ne grince forcément pas chez Villégié. Alors, est-ce que vous négociez le grincement de porte selon la direction?
Bon, pas très loin, là, je crois.
Non, il y a quand même une interprétation de la porte qui grince, selon la direction, ou la salle ou Villégié.
Oui.
Les portes de Villégié sont plus baroques, peut-être, plus lourdes, plus épaisses.
Ouais, c'est pas tout à fait le même théâtre. Non plus pas le même théâtre que Daniel Girard. Une pièce qui passe en ce moment, Terre morte, qui n'est pas du tout le... Je pense pas la tasse de thé de M. Villégié. Enfin, il a aimé le spectacle, mais... C'est un spectacle assez particulier.
Donc, allons le plus loin possible avec la porte qui grince.
Alors, on va le plus loin possible. Je vous en fais un autre, alors.
Hitchcock.
Il y a beaucoup de transitoires. Voilà. Ou je peux vous en faire un autre. Hein. Je peux vous en faire des vulgaires, des sympathiques, des... Un grincement tout simple. Il était très court, celui-là. Un très très lent, très craquant.
J'ai vu que la radio, quand même, parfois vous fait sourire, Jean-Marie Villégié.
Oh,
alors,
oui.
Quelle serait votre porte à vous?
Ah, mais je veux dire, mais s'il faut vraiment plus de 2 ans pour apprendre à faire des portes qui grincent très très bien, c'est très beau. Je ne sais pas combien de temps il faut pour apprendre à faire des portes qui ne grincent pas. Mais alors moi, c'est toujours le problème que je rencontre au théâtre. C'est bizarre, les metteurs en scène qui veulent que les portes grincent doivent avoir des portes qui ne grincent pas, et moi qui veux toujours que les portes ne grincent pas, je dois avoir toujours des portes qui grincent. Enfin, bref, pour continuer l'histoire du TNS... Je dirais que le...
Vous climatisez très bien le cauchemar.
On est... il faut quand même dire un certain nombre de choses concrètes. Il faut dire que cette école a chaque année environ 900 candidats. Et que... Comédiens, j'entends comédiens. Et qu'elle en reçoit une quinzaine. C'est dire que la sélection est assez rigoureuse et qu'on se trouve en présence... De gens qui sont, on peut dire, déjà de jeunes professionnels. Et bon, je les trouve, dans leurs propos que nous venons d'entendre, très modestes. Mais je crois qu'il faudrait qu'ils ne pensent pas trop. On va faire comme les professionnels. On va simuler des conditions professionnelles. Non, on va pas faire comme. On va pas simuler. On va faire, tout simplement. La preuve qu'on peut prétendre à faire... C'est que de cette école sont sortis un certain nombre de personnes dont je voudrais quand même énumérer les noms, parce que ce sont nos titres de gloire. Donc, j'aligne Philippe Thévenot, Robert Gironès, Gérard Chailloux, Jean-Louis Urdin, Hervé Loachmol, Anne Alvaro, Emmanuel Granger, Michel Dubois, José Maria Flotatz, Claude Petitpierre, qui est à la fois un merveilleux acteur et un merveilleux pédagogue, et bien, bien d'autres, aussi décorateurs, Yanis Kokos, Pierre Strosser, Christian Reitz, tant d'autres, j'ai une liste très, très longue là, que je ne vous infligerai pas tout entière, mais bon, j'ai oublié au passage beaucoup de noms, dont un que je ne voudrais pas oublier pour rien au monde, celui de Bill Fred, qui est un merveilleux comédien et que j'espère revoir sur ce plateau un de ces jours.
C'était Le Pays d'Ici en direct de la salle de musique de l'école du TNS, aujourd'hui école et enseignement. Prise de son et mixage Marcel Lebras, collaboration technique Daniel Lepêtre, réalisation François Test.
C'était la troisième d'une série de quatre émissions du Pays d'Ici consacrée au Théâtre National de Strasbourg. Première diffusion le 30 mai 1991 sur France Culture. À suivre.